Brume 90.7 en direct avec le Confluence Cinéma et nous avons le plaisir d'avoir bien sûr comme chaque mercredi en studio messieurs Raphaël Lorenzo et Hakim Fdaouche. Bonsoir à vous messieurs.
Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous tous.
Alors aujourd'hui pas mal de choses au programme, on va notamment parler du dernier David Fincher que Raphaël est allé voir.
Oui, Gone Girl,
la chance.
10e film de David Fincher.
Alors tous les deux, vous allez aussi nous parler dans la deuxième partie de Mommy, le film qui fait tant parler de Xavier Dolan.
Oui, tout à fait.
Et puis en dernière partie, on reviendra aussi, enfin plutôt on présentera le futur festival Lumière qui commence lundi prochain et dont Pedro Almodovar sera le héros.
Avec un jour de plus.
Et ça cartonne, hein. Toutes les places comme d'habitude sont pleines, sont prises, ça cartonne.
Malgré la hausse des prix.
Quant à moi, j'ai pu rencontrer hier notre ami Tony Gatliff pour son film Geronimo. Je vous en dirai un petit mot.
Apparemment, on t'aurait vu Place Bellecour en train de faire un michouille avec lui.
Ouais, voilà.
On est allé une petite séance de guitare.
Les faire clichés, un petit peu de jazz manouche.
Bon, Raphaël, écoute, je vais te donner la main. Je pense que c'est toi qui as le plus envie de nous parler de ce David Fincher que tu as tant aimé.
Bah, ce qui est bien au moins aujourd'hui, c'est qu'on aura une émission à superlatif. Je pense que ce soit sur Mommy ou sur Fincher.
Je pense que j'aurais aimé. J'ai pas eu la chance de voir le Fincher, mais je pense que j'aurais aimé.
Mais tu vas aimer,
Je vais aimer. Hein. J'aurais bien voulu en parler avec toi.
Je sais pas si c'est. Je crois que Mommy est ton film préféré de l'année.
Pour l'instant.
Je pense que le Fincher sera l'un de mes préférés de l'année. C'est donc son 10e film, Gone Girl, adapté d'un livre policier qui s'appelait Les Apparences, écrit par Gillian Flynn, qui co-signe le scénario avec David Fincher. Ils ont adapté le bouquin ensemble. Il a eu plus de liberté, Fincher, que sur Millennium, par exemple, de Stieg Larsson, où la fin était assez orientée politique, économique, etc.
Mais c'est une très bonne adaptation, par contre.
Oui, c'est clair, mais il était plus cadenassé, on va dire. Alors que là, il a vraiment.
Même si la version suédoise est un petit peu mieux, à mon sens.
Ah ouais, moi, je n'ai pas encore vu la version suédoise, donc je l'avoue, hein, mais celle de Fincher m'avait enchanté. Et il prolonge quelque part le sillon de Millennium avec une nouvelle enquête policière, on pourra dire. Je vais essayer de rien dire sur le film, ça va être très très dur pour moi parce que ce serait un crime, parce que
pas ça.
Non mais je vais juste raconter le synopsis de base, hein. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Nick Dune, incarné par Ben Affleck, sa femme disparaît, hein, incarnée par Rosamund Pike, j'ai du mal à dire son nom, et la presse, les médias, sa famille, tout le monde le pense coupable. Et tout le monde pense qu'il a tué sa femme, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de cadavre. Donc pas de cadavre, pas de preuve directe sur Ben Affleck. Donc ça, je ne vous dis pas plus, c'est juste le début du film, ça peut être les 20 premières minutes. Et après, ça va être twist sur twist, simulacre sur simulacre, comme le sait si bien le faire David Fincher. Il y a toutes ces obsessions à l'intérieur, on retrouve le jeu, l'idée du jeu, on retrouve le mastermind dans les premiers plans du film. Cette idée d'échec, il avait un projet de faire un film à une époque, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, sur un joueur d'échecs américain avec Tobey Maguire, un grand joueur d'échecs. Je pense qu'il a dû recycler quand même ces thématiques là-dedans. C'est une sorte de, comment on pourrait dire, de comédie de remariage extrêmement tordue, extrêmement noire à la Fincher. Donc on pourrait retrouver du Black Edward ou du Billy Wilder, mais vrillé à la sauce Hitchcock, à la sauce kubrickienne, comme il sait si bien le faire. Donc,
arrête.
Je te fais envie, hein, c'est ça.
Hein. Ah, tu me fais envie, là. Ça, c'est...
Et on retrouve voilà, toutes tes obsessions, l'obsession pour le coup, la paranoïa, la manipulation, la mise en scène. On retrouve le thème mise en abîme du cinéma qu'on retrouvait déjà dans tous ces films. Hein. On se rappelle des cigarettes, les brûleurs de cigarettes dans Fight Club. Zodiac était voilà, le mec qui manipulait tout. Pareil pour Panic Room avec ses grands écrans, ses moniteurs. Il fallait commander comme ça ses cambrioleurs pour pouvoir s'en sortir avec Jodie Foster. Et on retrouve ça encore. Ou même dans The Game, qui était le plus évident, avec des flingues qui tiraient à blanc, ou des cascadeurs qui mouraient pas, des acteurs qui se roleblaient, etc. Et on retrouve vraiment ça, quoi. C'est dur de pas dévoiler des trucs.
La direction d'acteur aussi, c'est vrai que c'est quand même.
Et ben là, pour le
coup, il est quand même assez costaud, quoi.
Pour le coup, Ben Affleck, qui est un acteur quand même sous-estimé, je pense, qui est quand même. Beaucoup de gens s'acharnent sur lui.
Il a évolué, hein, parce que j'ai eu une interview où il disait avec. 10 ans après avoir. Enfin, il avouait qu'il avait fait une erreur en acceptant le rôle de Daredevil. Mmh. Et puis, c'est surtout son succès en tant que réalisateur auprès de la critique et du public qui a fait qu'il a pris notre dimension. Argo,
mais on le reconnaît en tant que metteur en scène, pas en tant qu'acteur. Et je trouve que c'est assez faux. Quand tu vois les films de Kevin Smith ou les films de Gus Van Sant, il est vraiment très très bon dedans. Et je pense que c'est un choix extrêmement malin d'avoir utilisé Ben Affleck. C'est un acteur hitchcockien. Vous verrez dans le film, j'ai pas envie de dévoiler, mais c'est le l'acteur, exactement, c'est l'acteur matériau. Je ne dirais pas plus, c'est vraiment l'acteur qu'on manipule.
Un peu comme dans Paycheck de John Woo.
Oui, mais là, c'est comme...
Et là, il y avait déjà une référence directe à la mort aux trousses. Hein.
Exactement, et c'est vraiment ça. C'est vraiment le faux coupable. Voilà,
T'en dis trop. Hein.
Oui et non.
Ça se termine pas sur le Mont Rochemort à la fin.
Oui et non, mais c'est beaucoup plus épuré que ça, Fincher. Au fur et à mesure de ses films, après, je trouve Zodiac, qui est un film de la rupture, épure de plus en plus ses films avec le numérique. La photo est extrêmement travaillée, encore une fois, par son collaborateur Jeff Cronenweth. Et c'est extrêmement brillant dans l'utilisation des couleurs chaudes, des couleurs froides, qui renvoient au couple. C'est un film sur deux personnages, hein, donc on voit deux points de vue, hein, celui de la femme et celui du mari, et c'est pour ça que c'est un film sur le couple, et ça mitraille, ça envoie de la Kalachnikov sur l'institution du mariage. Quoi. On sent quand même de la hargne de la part de Fincher à filmer un couple marié. Quoi.
Et sur Brume, on aura bientôt l'occasion d'entendre un Radio Days, il me semble, non ? Spécial Fincher.
Eh bien, ouais, c'est une bonne introduction. On a fait hier avec M. Flavien Poncet un Radio Days spécial David Fincher. Malheureusement, Hakim n'était pas là. C'était un peu notre Zodiac, hein, comme l'a dit Flavien Poncet. Donc, il était là. C'est très Fincher, ça. Être là, mais en même temps, pas être là. L'absence, la présence, la transparence.
Et comme ça, chers auditeurs, vous pourrez retrouver un petit peu une analyse de l'œuvre et de ce qu'a pu faire David Fincher.
Toute sa filmographie, sauf Gone Girl. Que je dévoile ici.
Et pour terminer, est-ce que la bande-annonce qui a été multiplement diffusée sur les écrans depuis cet été...
Très maligne.
Est très maligne, elle n'en dit pas trop ?
Elle dit rien du tout.
Bon, bah parfait. C'est un peu le piège dans ce genre de film.
La première bande-annonce, c'était super. On entendait Chi de Charles Aznavour, comme ça, un peu comme la première bande-annonce de Millennium, tu sais, avec la reprise de Led Zeppelin. Et non, c'est très malin, c'est super bien foutu, c'est machiavélique et... Franchement, moi, c'est encore une baffe puisque Fincher est pur de plus en plus son trait.
Je suis quand même bien content parce qu'à une époque, on disait que David Fincher allait adapter 20 milieux sous les mers en motion capture.
Ça aurait été intéressant. Hein. Je pense que.
Oui, non.
Même par rapport à son rapport à la technologie qu'il a depuis le début, que ce soit sur Seven jusqu'à. J'en parle justement dans l'émission des frères Winklevoss dans Social Network.
Mais au final, il n'est pas passé du côté obscur de la force.
Il sait très bien manipuler la technologie et il sait en même temps aussi la critiquer. Il est dans l'entre-deux constant, Fincher, et c'est pour ça qu'il est brillant dans ce « mais », dans ce « ou », dans ce « et ». Et c'est encore le cas avec « Gone Girl » que je recommande vraiment vivement. Et si vous le racontez, enfin si vous l'avez vu, ne le racontez absolument pas à vos proches, etc.
On revient.
Laissez-leur découvrir.
On revient à Hitchcock pour Psychose. Hein, si vous connaissez la fin, ne la dites surtout pas. On n'en a qu'une seule.
Voilà, donc régalez-vous bien.
Ok, d'accord. Avant de passer à la deuxième partie et de débattre de ce fameux Mommy, moi je veux vous dire quelques mots sur Geronimo qui a été présenté déjà à Cannes. Raphaël, il me semble que tu l'avais vu hors compétition.
C'est l'un des derniers films que j'ai vu en compagnie de notre technicien Jimmy Franchi, qui dormait à toutes les séances. Allez, je le balance.
Oh.
Et Geronimo, je l'ai vu tout seul. Donc, et ça pulse pas mal le début, ça aura pu le réveiller. Hein,
ouais, donc c'est un nouveau film de Tony Gatliff, donc réalisateur qui s'est pas mal penché sur la question de la musique, des gens du voyage et un petit peu des road movie amoureux depuis quelques années. Et là, il nous raconte finalement un Roméo et Juliette, j'aurais presque envie plus de dire un West Side Story, sauce moderne, parce que c'est beaucoup ça, il est beaucoup question d'histoire d'amour, mais il est beaucoup question de danse. Et voilà, donc c'est l'histoire de deux jeunes amoureux, et la scène d'ouverture est assez explosive. On voit un gars, donc un gitan en moto qui part retrouver une jeune fille en robe de mariée qui vient de s'échapper de son mariage arrangé, une jeune turque. Et du coup, voilà, ils partent se cacher. Et ensuite, c'est un petit peu l'histoire universelle de la guerre entre deux familles qui voilà, vont se déchirer parce que ils veulent pas que leurs enfants soient amoureux. Et c'est quand même l'amour qui dépasse tout ça. Donc voilà, bon, il y a ce truc-là. Alors des fois, ce qui est marrant, Gatliff, je sais pas ce que tu en penses, mais il surjoue presque ça. Il y a des moments où c'est presque un peu ridicule, l'histoire.
Il joue dedans un rôle assez grotesque, aussi, monsieur, une sorte de parrain de la mafia au bout d'un moment.
Ouais, voilà, mais c'est surtout que voilà, ils sont tout en émotion dès qu'ils se voient l'un et l'autre. C'est vraiment, ils se mangent, ouais, ouais. C'est l'amour... Enfin voilà, mais je pense que c'est pas ça. Lui ce qu'il raconte, c'est l'histoire de du coup un petit peu une société qui se renferme dans ces trucs-là de communautarisme. Et notamment, on le voit parce que les oncles des Turcs et des Gitans, eux, ils sont tout à fait d'accord, mais c'est plutôt les jeunes frères de la même génération, en fait, qui supportent pas. Bref, voilà, une petite guerre ouverte. Et là, je pense qu'il sauve le film, enfin, ce qui fait vraiment avancer le film, le coup de génie de Gatliff, c'est de prendre donc Céline Sallet, cette jeune actrice, pour faire un petit peu le narrateur, le médiateur, donc, qui est Geronimo, c'est une éducatrice de quartier qui s'occupe des gamins depuis une quinzaine d'années voilà, dans le sud de la France pour essayer de les sortir de la merde. Et c'est elle qui va essayer d'empêcher une guerre entre les Turcs et les Gitans. Et ce qui porte le film, c'est vraiment des scènes de danse inouïes. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, Raphaël, de cette première scène où les Turcs arrivent donc, dans le terrain vague pour retrouver les Gitans et leur dire que voilà, il faut qu'ils rendent la sœur et machin, alors que les Gitans eux-mêmes ne savent pas vraiment où ils sont. Et là, tu as une scène d'une intensité musicale qui est hallucinante, où on parle des rythmes manouches, mais il y a aussi un petit peu toutes les anciennes chansons turques. Il y a beaucoup de hip-hop parce qu'il y a des espèces de battles avec du feu, avec ça tape sur les bidons dehors, sur les voitures. Enfin, c'est assez hallucinant, cette scène au niveau cinéma danse, elle est vraiment dingue. Voilà, après c'est intéressant parce que y a des lieux un petit peu friches, etc. Mais il y a des côtés aussi plus, comme il aime bien Gatliff, un petit peu les grands paysages, le côté road movie.
Oui, enfin voilà, les côtes, la mer, etc.
Bon, alors bien sûr, c'est pas l'histoire du siècle, mais il y a quand même quelques belles trouvailles dans ce film et je vous conseille d'aller le voir et d'y prendre plaisir.
Ce qui est bien, c'est justement entre le réalisme qu'il y a des situations, enfin on voit vraiment le côté social, des jeunes un peu désœuvrés et compagnie, il y a aussi une sorte de presque de fantastique dans les décors qui sont extrêmement travaillés avec des tags, etc. Enfin je trouve ça très 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 design en fait.
Et puis il y a le côté manichéen, qui est pas manichéen de Gatliff, c'est-à-dire qu'il voilà, il regarde les communautés, notamment les Gitans, parce que c'est celle qu'il connaît, sans ni les mettre sur un piédestal, etc., mais ni les descendre comme on a souvent tendance à le faire, en fait. C'est juste, il raconte les histoires comme elles sont, quoi. Et bien, sur ces mots-là, on écoute un morceau de musique et on se retrouve ensuite pour parler de Mommy. Stone long ago. Vous êtes en direct sur Brume, Confluence Cinéma, comme chaque mercredi. Et c'est le moment pour nous un petit peu du débat, de la discussion de nos deux chroniqueurs autour d'un film. Et bien sûr, cette semaine, c'est Mommy de Xavier Dolan.
Ah, qui fait la couverture de toutes les revues. C'est pas si rare que ça. Ça arrive très souvent que les cahiers du cinéma et Positif mettent en couverture le même film. Hein. Là, c'est à nouveau le cas.
C'est pas très étonnant des cahiers et de Positif, mais plus de Télérama, Libé, Les Un Rock, Le Monde, Studio Ciné Live.
Ouais, puis Libé, il y a carrément eu un numéro spécial, quoi. Enfin. Ouais.
Voilà, tout juste 25 ans, Xavier Dolan est considéré à juste titre en ce moment comme le metteur en scène le plus inventif de sa génération, celui qui a su redonner un nouveau souffle au cinéma contemporain. Pendant très longtemps, enfin depuis que je fais de la critique de cinéma à Radio Brume, il m'est arrivé très souvent de dire du mal de Xavier Dolan.
Moi j'avoue que je tombe de mon siège de t'entendre.
Oui, effectivement. Pendant très longtemps, j'ai boycotté le film. J'étais pas du tout. Bon, j'ai pas pu le voir à Cannes parce que j'étais pas sur la croisette à ce moment-là, quand le film a été projeté. Mais jusqu'à Cannes, je n'avais vu qu'un seul film de Xavier Dolan. C'était J'ai tué ma mère, que j'avais vu à l'époque, en 2010. Et j'étais sorti de la salle parce que j'en pouvais plus. C'était insupportable pour moi, c'était inintéressant.
Et je croyais que tu l'avais aimé celui-là.
Non, c'est Les Amours Imaginaires qui n'avaient pas détesté.
Et c'est Les Amours Imaginaires que j'ai vu juste après l'euphorie Mommy, après Cannes. Je me suis dit, bon, voilà, il passait sur la télé, je l'ai vu. Et ce petit, alors effectivement, il y avait toujours cette obsession de Dolan de se filmer, de ce petit côté... Petit malin, mais ce côté un peu narcissique qui m'énerve au plus haut
Cabotin,
point.
Cabotin un peu.
Cabotin également.
On peut le rapprocher de Fincher du début, du coup.
Et il y avait un truc qui était nouveau, hein, qui n'était pas là dans son premier film, J'ai tué ma mère, ce côté artistique, ce côté hommage au cinéma de Wong Kar-wai, il y a ce côté un peu stylistique au niveau des décors, des maquillages de ses acteurs, de des habits. C'est à partir de ce moment où il a commencé à jouer plusieurs casquettes sur ses films, costumier, monteur, metteur en scène, scénariste. Finalement, je trouvais que, et même l'utilisation au niveau de la musique, je trouvais ça intéressant. Après, Laurence Anyway, Tom à la ferme, j'en avais parlé, j'avais dit que c'était, bon, ça manquait un petit peu de souffle, hein. Ça évoquait des thèmes qui n'étaient pas assez développés à mon goût. Et Laurence Anyway, je l'ai revu avant-hier. Et effectivement, il y a une étape de franchise dans la carrière de Xavier Dolan avec ce film, beaucoup plus long, beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus travaillé au niveau stylistiquement parlant. Mais ça n'atteint pas les sommets qu'atteint Mommy, hein, qui est un film qui finalement évoque toujours la même histoire, à savoir les rapports compliqués entre une mère seule et son fils. Là, en l'occurrence, c'est un enfant, comment on appelle ça, qui est bipolaire, qui a d'énormes problèmes hyper réactifs. Donc, on pourrait croire que c'est à nouveau Xavier Dolan.
Hein, très violent aussi. Hein.
Très violent. Alors, Dolan n'est pas violent sur les tournages, mais hyper réactif. Hein. Je l'ai encore vu chez Ruquier, là, on n'est pas couché, pendant qu'on lui faisait ses éloges.
Après, là, comme il expliquait lui, là, on n'est même plus dans la surréactivité ou quoi. Mmh. Là, c'est vraiment, c'est pas le mec qui va ranger des bouquins ou être un peu excité. C'est quand même vraiment une vraie maladie mentale qu'a le personnage.
Je fais juste une parenthèse. Après, je reviendrai justement chez Ruquier.
Et là, je trouve
tu vas
que...
nous parler un peu de Zemmour.
non, justement, oui et non. Parce que ce qui est intéressant, c'est Zemmour, justement, pas Nolan.
Et là, je trouve... Moi, je suis vraiment tombé des nues en voyant le film en avant-première à l'Institut Lumière. J'avais un petit pressentiment, en me disant, avec la bande-annonce, avec ce qu'on nous a un peu dévoilé, que voilà, effectivement, il y aurait peut-être quelque chose. Et effectivement, je trouve que là, il se surpasse. Comme je le dis, c'est à peu près la même histoire. Hein, il résout toujours ses problèmes avec sa maman. Comme toujours, entre ce fils et sa maman, il y a une nouvelle fille, en l'occurrence leur voisine, qui a un problème de bégaiement, qui a un problème physique, qui va se retrouver dans ce petit couple. Et de là, va se créer un trio amical, pas amoureux, amical. Et voilà. Et là, je trouve que d'un point de vue esthétique, c'est sublime. Au niveau musical, il fallait quand même oser mettre du Céline Dion, du Andrea Bocelli et du Level 5. Et je trouve que même aujourd'hui...
Tu sais, les gardiens, il faut aussi une compile. Alors...
Oui, ben, c'est dans la mouvance du temps et je trouve que c'est vraiment réussi. Non, je dis franchement qu'il effectivement, il a du talent. C'est surtout le talent précoce qui surprend. Là encore, je le dis, je trouve que sa filmographie n'est pas parfaite. Il y a beaucoup de ces films que je n'apprécie toujours pas. Cependant, je reconnais qu'avec le temps, il a su évolué. Il a su prendre en compte les erreurs qu'il a fait par le passé. D'ailleurs, quand on lit les entretiens qu'il a accordés à Possive et au cahier, il dit très souvent que voilà, il y a certains de ses films, il ne peut plus les voir, qu'il se rend compte des fautes qu'il a fait, que ses premiers films faisaient vraiment films étudiants. Et là, on va dire qu'il a beaucoup plus de pouvoir, il a beaucoup plus de notoriété. Il a des techniciens qui l'épaulent et qui lui permettent de faire ce qu'il a envie de faire, de savoir des vrais tableaux. Quand il prépare ses films, il découpe des images, il lit beaucoup de revues de photographies. Donc du coup, il fait ce que Gus Van Sant et autres ont fait auparavant, à savoir des films pop, des films, des rêveries. Je suis vraiment tombé amoureux de ce film. Je le reverrai une seconde fois avec grand plaisir. Maintenant, j'espère qu'il ne changera pas d'épaule, son visage d'épaule plutôt, qu'il continuera en cette veine, qu'il essaiera de se surpasser. Par contre, s'il revient à un cinéma beaucoup plus personnel et personnel que c'est mon film, moi, ça ne me plaira pas. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le meilleur film ce début d'année. Alors peut-être que...
Ce début d'année,
non, début d'année scolaire, excuse-moi. C'est vraiment le meilleur film de l'année 2014. Peut-être que mon avis changera quand je verrai le David Fincher. Mais voilà. Je retire certaines choses très, très désagréables et très mauvaises que j'ai pu dire envers ce jeune metteur en scène. Il a du talent et j'espère qu'il continuera comme ça.
Non, bah moi, je vais tempérer tes propos. Et ceux même de toute la presse française, télévision, puisque même TF1 en a parlé, France 2, Canal+, etc. Je pense que déjà, les gens s'en foutent complètement. Les vrais gens, hein, pas nous les cinéphiles, on en parlait hors antenne, un terme que j'aime pas, mais les vrais gens n'ont rien à foutre, hein, avec tout le respect que j'ai.
Je pense qu'ils vont aimer. Attends-toi que ça soit un succès. Hein.
Et ben moi, je m'attends surtout à un gros bide. Son film qui a fait le plus d'entrées, c'est 120 000 spectateurs. Et un truc qui est intéressant pour venir à Zemmour et à l'émission de Ruquier, j'ai vu un graphique l'autre jour. L'émission de Ruquier a commencé à 16% quand Zemmour est arrivé. Zemmour continue à parler, il a fait 46%. Zemmour s'en va, tout le monde est à la télévision, ils sont tombés à 10%. Et il était juste après Dolan. Donc ça veut dire que tout le monde.
À quelle heure est passée l'émission ?
Oh, elle a continué jusqu'à 3h du matin.
Ouais, bah voilà, excuse-moi.
Mais à 2h, à 2h46, ils ont fait 46% de part de marché.
Bon, après, ça, c'est un autre débat quand même. Parce que oui, le fait est que Zemmour, avec son livre, a fait aussi la une, tu vois, de toute la presse
évidemment,
cette semaine.
Évidemment.
Que tout le monde l'attendait en plus face à Cohn-Bendit, face à d'autres gens, etc. Et que voilà, les gens, ils regardent, qui détestent Zemmour d'ailleurs ou qui l'adorent. Hein. Tout le monde regarde parce que de toute façon, il y a ce côté où il va se passer un truc, tu vois, avec Zemmour.
Entièrement. Mais c'est pas tant Zemmour qui m'intéresse, c'est que les gens zappent. Les gens ont zappé au moment où Dolan est arrivé.
Reviens à ta critique.
Et donc, tout ça pour tempérer finalement le rouleau compresseur médiatique qu'on assiste depuis Cannes. À l'époque, à Cannes, j'ai beaucoup aimé le film. C'était effectivement un film qui dénotait dans la compétition à Cannes, qui était, je trouve, bonne cette année, mais pas extraordinaire non plus. Je trouve son prix, franchement, je le dis, assez mérité par rapport à l'année qu'on a eue. Mais il faut quand même tempérer les propos. Ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre absolu comme on nous le vante de partout. C'est un bon film, mais ce n'est pas Citizen Kane, quoi. Voilà, c'est pas le talent d'Orson Welles quand il fait ce film-là à 24 ans. Et la seule idée de mise en scène qu'il a vraiment, je trouve, c'est l'idée du 1.1, donc qui est un format assez proche du portable, de l'iPhone, hein, qui est très, très à la mode.
Alors que lui, il dit, non, mais moi, tout le monde parle de iPhone et de... Moi, c'est surtout... Alors pour moi, c'est un gadget. Moi, je suis...
Justement, je vais revenir là-dessus.
Le film, il aura beau être en 16/9 ou autre chose, le film sera toujours aussi riche. Bon, ça donne une scène clé où à un moment le comédien principal étire l'écran au moment où tout s'est passé.
Où il est heureux, etc.
Voilà, bon, on a compris ces jeux.
Oui, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est
que c'est un gadget,
j'ai l'impression que les critiques autorisant autistes français que sont Télérama jusqu'au Zinrock et toute la clique, moi j'y étais à la séance de presse à Cannes. Lors de ce fameux moment qui casse pas trois pattes à un canard, toi et moi on aime la mise en scène, on aime des grands auteurs. C'est intelligent, mais sans plus, quoi.
Oui, mais justement...
Ça, c'est pas extraordinaire non plus. Ils se sont levés et ont applaudi d'une voix à Cannes.
Oui, mais tu aimes la mise en scène tout comme moi. C'est très bien que la mise en scène, tu inclus le montage, les choix musicaux, la direction d'acteur.
Mais je les trouve pas folichon non plus.
Attends,
l'utilisation de la BO pop, etc., Harmony Korine sur Spring Breakers arrivait vraiment à la transcender par un message, par une ironie. Je pense à la fameuse séquence où James Franco, par exemple, fait au piano Every Time de Britney Spears. Il y a un vrai regard, je trouve. Je trouve ça assez gratuit. Tu laisses Céline Dion ou Beyoncé, quoi.
Mais là, ça fait partie un peu. Il est fan de Céline Dion, il est fan de Titanic, il est fan de ce genre
de
musique.
Qu'est-ce que ça apporte à l'histoire ? C'est ça la mise en scène. C'est pas un truc gratuit qu'on aime. Qu'est-ce que ça raconte par rapport au personnage ?
Tu peux pas renier le fait que les acteurs sont vraiment extraordinaires. La acteur aussi. Et ça, ça relève du talent du directeur, moi, de la direction d'acteur.
Ils sont pas mauvais, ils sont pas mauvais, mais le jeune acteur, je trouve qu'il a une tête à claque absolue. Et donc, ce procès de mise en scène que ces critiques découvrent, comme ils ont découvert Refn, par exemple, sur Drive à Cannes, était déjà présent dans ses précédents films, les changements de format, etc. Mmh. Et surtout présent dans son clip qui était College Boy, qu'il a réalisé pour le compte d'Indochine.
Oui, non, mais là, c'est pas... donc, non, là, mais c'est déjà souligné dans la presse.
Il découvre, mais il découvre, j'ai l'impression, après coup, la poudre, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours pareil avec ces élites.
Dolan, il est chouchouté depuis le début, Dolan. Il y a que moi qui le retrouve.
Mais là, maintenant. Ça atteint quand même. Ça atteint quand même.
Parce que c'est son meilleur film.
Sûrement. C'est mais il faut arrêter quand même. C'est pas un chef-d'œuvre absolu. C'est souvent du chant contre chant. Je suis désolé.
Évidemment. Oui. Que non. Y a
pas à part l'utilisation du format, voilà, il y a pas grand-chose.
Il y a tout un choix au niveau des lumières, un choix au niveau de la composition musicale. Tu peux pas renier ça.
Bah, je vais te le dire. Ce que je pense sur la composition musicale, je peux pas dire mieux.
Voilà. Attends. Il y a pas. Pour moi, c'est du chant. Zimmer, forcément. Il y a pas Howard Shore.
Après, moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai pas vu Mommy, mais j'ai vu quand même 3 ou 4 films de Dolan. Enfin, les 3, je crois, d'avant. Et moi, par rapport à ce que vous dites, en fait, sans vouloir faire le médiateur ou quoi, mais je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que moi, je pense que ce mec-là, il a quand même un cinéma dans les mains et dans les yeux assez hallucinant pour un mec de cet âge-là, qu'apparemment, Mommy est quand même un cran au-dessus. Mais après, il y a toujours ce fameux truc. Alors, quand on parle de buzz médiatique, bien sûr que ce n'est pas de buzz sur 60 millions de Français, parce qu'on sait très bien que les films d'auteur, comme les groupes de musique, comme quand moi, on parle de Fauve, par exemple, comme groupe en ce moment, de buzz, etc. Mais ça reste des buzz, ça ne passe pas sur M6 toutes les demi-heures. Dans un microcosme culturel, c'est quand même un vrai buzz. Oui. Parce que tous les médias sont mis à genoux et le cinéma dans le monde entier.
Donc mais voilà, c'est un petit milieu, le cinéma français aussi.
Oui, c'est un petit milieu.
Par rapport au cinéma.
Mais il y a quand même un vrai différent. Buzz, tu vois. Il y a un vrai talent.
Tout le monde couche avec tout le monde.
Il y a un vrai buzz. Et après, il y a un côté où effectivement, tout le monde va s'agenouiller devant Dolan. Et peut-être que dans 2 ans, ce sera plus du tout le cas.
Mais je pense honnêtement que ça ne marquera pas l'histoire du cinéma. Même si on aime le film. Il est bon, je le dis, il est bon quand même.
On n'a pas les chiffres, parce que c'est le premier. Là, on est en direct et aujourd'hui, c'est les premiers jours d'entrée. Mais. Faisons le bilan en 2 semaines. Je pense qu'il va faire beaucoup
le d'entrées. Marc Lavoine fera plus. La preuve tira avec ta chérie. Deux fois plus de spectateurs.
Tu verras. Je pense que ça va bien marcher.
Il y a d'autres trucs.
Il y a d'autres trucs. Mais je pense que ça va toucher les classes populaires. Ça va toucher le grand public.
Je pense qu'ils s'en foutent un peu.
Allez, messieurs, on va écouter une nouvelle chanson et on se retrouve ensuite pour parler un petit peu de notre Festival Lumière 2014.
On va sortir le pro.
I saw a boy on the street, but I heard he's not so nice. And I wanna take a look, but I don't think it's wise. Shoot a glance in my direction, and I go right back to being a child. And if I lay down beside you, I think that I might die. I'm on an escalator and the key won't
Rhume 90.7, direct, cinéma, confluence. Et nous allons maintenant, mesdames et messieurs, vous parler un petit peu de ce programme de Festival Lumière 2014.
Oui, qui est très alléchant, très varié comme toutes les années. Et moi, personnellement, il me plaît dans sa diversité. Oui. Je vais piocher un peu dans tout, moi, cette année.
Même si, effectivement, également, moi-même, mais effectivement... Comme d'habitude, il y a des redondances.
Beaucoup de reprises Franck de Cannes classiques.
Oui, bah déjà ça. Mais bon, tout le monde n'a pas chance d'aller à Cannes.
Oui,
mais
vrai.
Surtout, voilà, Apocalypse Now a déjà été projeté, non, je crois, non ?
Baignure a été projeté. Baignure. Apocalypse Now, effectivement, ça recule voilà. Beaucoup. Les Sergio Leone qui étaient diffusés.
2001.
Même au niveau des personnages, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, hormis bien sûr les rétrospectives ou le prix Lumière, mais c'est vrai que ceux qui viennent présenter tout ça, les Chimino, Charles Berg, machin, alors c'est bien,
ils
mais
partagent c'est à vrai la que cuisine de l'Institut Lumière apparemment.
Ça fait pas mal d'années qu'ils viennent en fait. Quoi.
Ça devient un peu une maison.
Ils ont leur couvert à l'Institut. Quoi. Ils sont
ouais, il y a un petit peu ce côté-là, alors c'est vrai que c'est bien.
C'est très
mais,
bien,
mais ça
c'est
serait aussi
artistes.
Pas mal d'avoir tu vois, des nouveaux réals américains qui passent, qui viennent présenter pendant. 2-3 jours des films, même s'ils ne sont pas forcément présents dans les rétrospectives ou quoi. Mais,
C'est ce qui fait, par exemple, Thierry Frémont en invitant Michel Zanavicius au dernier moment pour The Search, qui était présent à Cannes et qui donc y aura une séance rajoutée, je crois, le mercredi à Confluence, le mercredi soir.
D'accord, qu'il avait déjà fait avec The Artist.
Exactement.
Almodovar, donc une programmation pas si complète que ça. On s'étonne de voir que des films comme La Maléducation, La Mauvaise Éducation...
C'est vrai, il manque. Los Abrazos Rotos aussi.
N'y soit pas. Bon, même s'il avait été projeté deux semaines, il y a quoi ? Il y a deux semaines, hein, une semaine hein, à l'Institut Lumière, il y avait déjà une projection.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le cadre des conférences de Fabrice Calzettoni.
Voilà. Donc, parle avec elle qui sera le prix Lumière. Ce qui est intéressant de voir, c'est ses premiers films, Pipi, Lucie, Baume et autres filles du quartier, qui sont premiers long métrage, tourné en 1980. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Donc voilà, des films qu'on n'a pas l'occasion de trop voir quand on évoque la carrière d'Almodovar. À noter qu'il y a une avant-première d'un film qu'il a produit, qu'on a vu avec Raphaël à Cannes, Les Nouveaux Sauvages, donc qui est un. Comment dire, c'est une. Pas des histoires, c'est un film à sketch, avec des sketchs plus ou moins inigo,
assez gore.
Mais gore, inigo, des fois drôle.
Et c'est là qu'on a compris qu'Almodovar serait pris lumière en voyant ce film.
Je l'avais dit. Quand je l'ai vu en conférence de presse, le Pedro me dit « Ah, ça sent la négociation. »
Oui, on l'avait vu effectivement sur le tapis rouge. La grande réconciliation, ça y est.
Et donc, après, rétro Claude Sauté, avec apparemment...
Alors, ce qui est pas mal aussi, moi, je trouve, quand même, sur Almodovar, c'est aussi qu'il vient présenter une nouvelle fois des films comme Tarantino ou d'autres avaient pu le faire. Mais là, il va quand même cibler pour chaque film... Quel film l'a inspiré, plus ou moins
ouais. Une carte blanche.
Il y a quand même quelque chose comme ça d'assez précis. Mmh. Ça, je trouve que ça peut être assez intéressant quand même.
Oui, il y a des films assez intéressants.
Puis c'est courageux, mine de rien, de dire à un moment donné, j'ai fait ce film-là et ma grande source, c'était ça. Parce que souvent, les réals ou les artistes en général, ils vont dire, bah voilà, moi, j'ai 1000 sources qui m'ont donné l'idée de faire ça. Et là, à chaque fois, ils ciblent quand même un film du répertoire pour dire, bah, c'est celui-là qui m'a influencé.
La différence entre l'hommage et le plagiat. Hein.
Et on se rend compte que c'est un grand cinéphile. Hein.
Oui, bah ça, avec Scorsese et Tarantino, il paraît que c'est le plus grand cinéphile du monde.
Après, c'est temps de voir que...
Puis on va voir beaucoup de perles espagnoles, hein. Oui. À mon avis, les Buñuel et tout ça.
Étonnant de voir que L'Homme qui rétrécit a beaucoup influencé la mode noire pour parler avec elle.
Oui, bah, au bout d'un moment, t'as une fameuse séquence...
Ah, mais dis pas, je l'ai pas vu.
Ah, tu l'as pas vu ?
Je l'ai pas vu.
Digne de Calmos.
Voilà. Les yeux sans visage, c'est tout à fait logique de voir cette sous-référence pour L'Appel qui habite.
Puis il y a quand même des gros trucs, hein, comme Le Voyant de Michael Powell, du cassette avec Opening Night.
C'est logique parce qu'il a pompé toute une séquence.
Oui, mais entièrement.
Pour Tout sur ma mère. Enfin, voilà. Et après...
Donc Claude Sauté, alors.
Claude Sauté, qui est un cinéaste que je ne connais pas du tout, donc je vais m'en faire pas mal pour pouvoir découvrir cet auteur.
Un cinéaste intéressant qui a commencé dans des vrais polars, Classe Touriste, etc., avec Bebel et Une Aventura, L'Arme à gauche, etc., des gros films, on va dire, policiers, et qui va se tourner progressivement vers des films d'amour, un peu comme James Gray, d'ailleurs, aujourd'hui. Hein. Et c'est un cinéma que j'aime beaucoup particulièrement et porté par des grands acteurs populaires français, Yves Montand, Romy Schneider, L'Une Aventura, donc c'est assez savoureux.
Hein. Ce qui est intéressant, c'est Ted Kotcheff, hein, la petite rétro qui lui est consacrée. Hein. Alors c'est vrai que quand son nom a été annoncé en conférence de presse, on s'est dit, mais c'est qui hein? Et il a suffi d'une image, celle de
First Blood.
De Sylvester Stallone dans First Blood, donc Rambo, pour se dire, ah oui, effectivement, c'était lui l'auteur du premier du premier Rambo. Et donc, du coup, il y a trois films.
Le premier, il faut vraiment en parler parce que je ne l'ai pas vu, mais il y a un buzz énorme autour de ce film. Réveil dans la terreur, tout le monde dit, je me suis renseigné sur Internet, il est ressorti il y a 2-3 ans en copie restaurée. Et il paraît que c'est une véritable baffe tournée en Australie, un peu à la même époque que Mad Max. Et il paraît que ça te complètement fou. Donc, j'espère que les gens vont aller voir ça parce que ça, c'est vraiment beau, quoi.
Voilà.
Coluche aussi, qui est mis à l'honneur, qui est assez étonnant. C'est les 30 ans de sa mort dans 2 ans. Il y a déjà une rétro Coluche avec Joe Pantin qui a été restauré apparemment, présenté par ses enfants. Marius Colucci sera là entre autres. Hein. Et moi, je vous avoue, j'ai pas pu résister à prendre un petit Banzai. Je le connais par cœur, mais Banzai sur grand écran avec plein de gens. On va bien rigoler.
Séance culte, donc Rambo, Massacre à tonceuse, donc ressorti de Cannes classique hein, pour les 40 ans.
Ouais, c'était à la quinzaine des réalisateurs.
Mais ça me fait quand même chaud au cœur de voir que ce film-là, qui à l'époque avait été un gros scandale, de le voir maintenant dans un festival de films.
Tu vas le voir.
Je le verrai à sa ressortie. Enfin,
parce que la copie, parce que je le conseille vraiment, elle est magnifique.
Le film ressort en copie neuve dans toutes les salles de France le 29 octobre.
Alors il y a quand même un hommage à deux très belles femmes, parce qu'on parle beaucoup des réalisateurs, mais il y a quand même Faye Dunaway et Isabella Rossellini on va rendre
c'est des muses.
Superbe hommage.
Enfin, mon choix, il est fait depuis toujours, parce que des belles femmes. Voilà.
Là où elle est le plus belle, de toute façon, Isabelle Rossellini, c'est dans La mort vous va si bien, de Robert Zemeckis, que je vous conseille et qui n'est pas dans la sélection. Mais il y a quand même Blue Velvet, des films de son père.
Et à la soirée d'ouverture, on aura la chance aussi de voir le chef-d'œuvre, le grand film d'Arthur Penn, Bonnie and Clyde.
Oui. Qui va marquer un renouveau dans l'histoire du cinéma, qui va amorcer le cinéma des 70 qu'on a évoqué plusieurs fois l'année dernière, le Nouvel Hollywood. Voilà, c'est l'un des premiers films qui va marquer. Je crois que le film sort avant le film de Peckinpah.
Mission Pie ?
Non, le Sauvage. Là.
Ah, L'Horde Sauvage ?
L'Horde Sauvage.
Le premier film de Hollywood, c'est le Lorraine.
Oui, mais je veux dire, au niveau de la violence. La violence. Hein, avec ce final où Bonnie and Clyde sont. Oh mon dieu, spoiler. Mais bon, tout le monde le sait. Se font tirer dessus. Et là, il y a l'influence de l'assassinat de Kennedy avec justement ce fameux plan. Ce diagramme où on voit le crâne qui explose, et là Arthur Penn a fait exactement la même chose.
Il est trop fou, il a failli faire le film à l'époque.
Oui, si on avait parlé aussi, je me rappelle l'année dernière quand on avait fait un petit spécial Nouvelle Vague aussi de Arthur Penn qui avait beaucoup aimé les Godard, etc. Quoi.
Tout à fait.
Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des petites choses comme ça, Jean Rochefort, il y aura...
Capra, qui a déjà eu le droit à une rétro il y a 2 ans, donc voilà.
Chimino, qui sera encore là.
Chimino pour...
SOS Fantôme,
voilà,
restauré 4K pour les 30 ans du film.
C'est une restauration
4K ouais, oui, 4K, il est sorti cet été aux États-Unis et là, on va bien se marrer aussi.
Hein. Et puis, il y a encore le ciné-concert, enfin du moins le moment du muet, avec Nosferatu et Le Dernier des Hommes. Murnau, le ciné-concert. Et j'aimerais également, cinéma asiatique oblige, hein, souligner la saga Musashi.
Souvent qui... cinéma-opéra, ça, je crois.
Voilà, ça, c'est un peu... Non, Senpetero, ça,
ils ont changé, d'accord.
C'est un petit peu dommage pour ça. Qui va sortir chez Wallside cet hiver et c'est au départ je pensais que c'était une trilogie mais en fait il y a 6 films et jusqu'à présent les 3 films étaient disponibles dans une copie dans un coffret DVD chez Pathé il y a 5 ans avant c'était très compliqué de voir ces films là et c'est dans mon souvenir ça fait déjà plusieurs années que je ne les ai pas vus mais dans mon souvenir c'est assez remarquable notamment c'est un samouraï qui a eu la grande réputation d'avoir zigouillé 60 samouraïs en un seul combat et dans le 3e volume on voit cette fameuse séquence
et il prolonge un petit peu ce qu'ils avaient fait avec Baby Cart par exemple
et les films de Kenji Fukasaku
exactement et dans un autre genre aussi il continue un truc que j'avais adoré qui était la nuit de la bande annonce c'est un programme complètement fou par un belge complètement passionné, complètement charmé, qui a 20 000 bandes annonces chez lui, 35 mm, et il a pioché dans sa collection. C'était une soirée géniale, et ils remettent le couvert. Moi, j'aimerais retrouver ça tous les ans, parce qu'il est vraiment fou, et c'est super drôle, avec plein de bandes annonces. On passe de Godard à Mr. Bean, de Zeffirelli au parrain. Et je vous conseille ça, parce que c'est vraiment très, très drôle, et c'est super intelligent et pas vu. Quoi.
La séance pour enfants, le village de Chihiro,
Miyazaki.
Et Soirée Alien.
Ah oui,
peut-être pas mal de choses en tout cas, chers auditeurs. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, justement, en direct sur Brume pour vous faire un premier retour sur les 3 premiers jours du festival, la soirée d'ouverture et puis les premiers grands moments. On organisera une émission spéciale mercredi prochain. D'ici là, messieurs, bonne semaine et puis à très bientôt sur les ondes de Brume.
Et bon début de festival alors.
Tout à fait.